Le médecin des pauvres, deuxième partie, chapitre 23, la cantinière. La scène que nous venons de raconter s'était passée en moins de 4 ou 5 minutes, et déjà cependant les deux tiers des hommes formant la garnison du château étaient accourus sur le rempart, stupéfaits de l'audace inouïe de cette scène de violence, de cet acte de brigandage effréné, accompli ainsi en plein jour, à quelques centaines de pas à peine, des murailles d'une citadelle et sous les yeux des sentinelles épouvantées. Chacun disait son mot, chacun exprimait son opinion à propos du fait étrange dont il venait d'être témoin. « Voilà de pauvres diables de capucins bien mal accommodés !» s'écriait l'un. « Le vieux a l'air malade !» répondait l'autre. « Que peuvent-ils vouloir faire du jeune, les bandits? Et pourquoi donc l'ont-ils emporté de cette façon, pieds et poings liés? Veulent-ils par hasard obtenir de lui le pistolet sur la gorge, l'absolution pleine et entière de leur péché? Ce ne peut être pour le voler, car tout le monde sait que les moines, quand ils voyagent, n'ont pas même un écu dans leur poche. À quel corps de l'armée appartiennent ces défrousseurs? J'ai cru reconnaître l'uniforme du régiment de Longeville. » « Et moi, je suis certain d'avoir reconnu celui du régiment de Conti. »« Ah, le régiment de Conti? Les plus grands pillards de l'armée? De vrais bandits? Ça doit être ça. »« Que va leur dire leur colonel quand il apprendra la chose ?»« Ma foi, je ne voudrais pas être dans la peau de ces gredins-là. »« Surtout aujourd'hui. »« Pourquoi surtout aujourd'hui ?»« Parce que le cardinal est ici, et que le cardinal... » étant cardinal et prêtre, et que les moines étant prêtres, il doit soutenir les moines, et qu'il ne pardonnera pas de les avoir détroussés et assassinés. C'est ma foi vrai ce que tu dis là. Ce qui m'étonne, moi, c'est qu'il se soit trouvé une embuscade de plus de 20 hommes dans le petit bois, où personne de nous n'avait vu entrer seulement un chat. Bah, ils sont venus par le grand bois qui est en arrière. Rien n'est plus facile que de se glisser d'un arbre à l'autre sans qu'on s'en doute. En ce moment, un nouveau personnage arriva sur les remparts et se mêla au groupe des soldats. Ce nouveau personnage était une vieille femme, personnalité assez curieuse à laquelle il est utile de consacrer ici quelques lignes. Elle avait 65 ou 66 ans. Elle était petite plutôt que grande, et grasse plutôt que maigre, avec un visage bourgeonné et un nez bulbeux qui, l'un et l'autre, attestaient le culte fervent de la dive Bouteille. Elle était veuve. Elle avait un fils dont nous parlerons dans un instant. Tout le monde la connaissait sous le nom de la mère Fint. Et depuis un temps immémorial, elle exerçait les fonctions de portière et de cantinière du château de Bléteran. Les années se succédant, elle avait fini, comme dirait un homme de loi, par faire partie de l'immeuble. Les événements qui venaient de s'accomplir dans la province, la guerre, les combats, les sièges, les changements de maître, rien n'avait pu lui faire déserter le poste dans lequel elle avait passé toute sa vie et où elle comptait bien mourir. Fidèle à ses habitudes et à sa demeure, à peu près comme l'escargot l'est à sa coquille, elle demeurait étrangère à tout sentiment de patriotisme, à toute conviction politique. Elle versait à boire aux Français et aux Suédois aussi volontiers qu'aux Franc-Comtois, et elle formulait fréquemment, en manière d'aphorisme, que l'eau-de-vie et le genièvre devaient couler pour tout le monde. Pour tous ceux, du moins, ajoutait-elle, qui pouvaient payer la boisson consommée. Cet électisme de principe, bientôt connu des soldats des diverses armes, devait protéger la mère Fine contre toute catastrophe et la protégea en effet. Son logement, situé dans l'épaisseur même du rempart, non loin du pont-levis, était composé de deux petites pièces. L'une, chambre à coucher, l'autre, cabaret. Le cabaret avait une porte toujours ouverte sur l'esplanade du château. La chambre à coucher prenait jour par une petite fenêtre garnie de barreaux de fer sur la campagne, au-dessus d'une poterne pratiquée dans le soubassement de la muraille et communiquant avec les fossés. La chambre à coucher, avons-nous besoin de le dire après avoir tracé un croquis de la mère Fint, était inviolable. Le cabaret constituait un terrain neutre, et sur ses bancs de bois brut, venaient successivement s'asseoir les soldats de tous les partis, parfaitement certains d'être aussi bien accueillis les uns que les autres. Lorsque les vaincus d'hier devenaient les vainqueurs d'aujourd'hui et rentraient triomphants dans les murs d'où ils avaient été chassés la veille, la mère Fint le recevait avec une cordialité parfaite. Et elle ne s'occupait de la couleur du drapeau, qui flottait sur la plus haute tour, étendard de France aux fleurs de lys d'or, ou drapeau noir de la comté en deuil, que pour être toujours exactement de l'opinion du dernier occupant. Cette versatilité, si merveilleuse et si peu dissimulée, lui avait valu, chose rare, la confiance et l'estime des partis opposés. Nous avons dit que la mère Fint avait un fils, et que nous reparlerions de ce fils. On le nommait le grand Nicolas. Nicolas, qui devait son surnom de grand non pas au développement de son intelligence, mais à celui de sa taille, était un garçon de 30 ans, beaucoup plus simple d'esprit que certains enfants à peine arrivés à l'âge de raison. Boire, manger, dormir, telles étaient les trois principales occupations de sa vie, dont tout le bonheur se résumait en l'assouvissement de ses trois passions, l'ivrognerie, la gloutonnerie, la paresse. En dehors de ce qui touchait de près ou de loin à la bouteille, à la gamelle ou à la possibilité d'étendre sur un lit plus ou moins dur ses longs membres dégingandés, Nicolas n'avait pas une idée et ne ressentait pas un désir. On ne pouvait affirmer, cependant, qu'il fût de tout point idiot, ni même complètement inutile. Il aidait sa mère, tant bien que mal, dans le service de la cantine, et il s'acquittait, à la satisfaction générale, des fonctions de porte-clés, emploi dans lequel il aurait été bien difficile de le remplacer, car au milieu des changements continuels de garnison, avec des gouvernements tantôt franc-comtois, tantôt français, Nicolas seul pouvait dire, du premier coup d'œil avec certitude, à quelle porte allait-elle clé. Aux détails qui précèdent sur la cantinière et sur son fils, nous devons ajouter que la mère Fint était une femme pieuse et qu'elle professait le respect le plus profond et le dévouement le plus absolu pour tout homme revêtu de la soutane de prêtre ou du froc à capuchon du moine. Rejoignons-la maintenant, s'il vous plaît, au moment de sa brusque apparition sur les remparts, où elle avait été attirée par le bruit des éclats de voix et le murmure confus des conversations turbulentes. « Eh bien ?» demanda-t-elle en se frayant avec les coudes d'un passage au milieu des groupes. « Qu'y a-t-il ? Et que regardez-vous donc ?»« Voyez !» répondit un soldat en étendant la main vers l'un des points de la plaine. « Où ? Quoi ? Je ne vois rien. Tenez, là, à 400 ou 500 pas, dans la direction de ce gros arbre. »« Ah, ah, j'y suis !» fit la mère Fint. « Il y a quelque chose par terre ? Mais qu'est-ce que c'est ?» C'est un pauvre diable que des maraudeurs viennent d'assommer. Ah, les brigands ! S'écria la vieille femme. Puis regardant mieux, elle ajouta. Mais, Sainte Vierge Marie, Dieu me pardonne ! On dirait presque que c'est un moine. Eh, c'est un moine, en effet, la mère. Un moine ? Est-ce bien possible ? Mon doux Jésus, un moine, un serviteur du bon Dieu ! Ah, les mécréants, ah, les damnés ! Et en faisant comme une sorte de longue vue avec ses deux mains, la vieille femme, dont le corps tremblait d'émotion, attacha ses regards sur le corps inanimé du religieux, tout en continuant ses lamentations, ses exclamations et ses malédictions. Au bout de quelques minutes d'attention, elle murmura. « ah, mais, ai-je la berlue ?»« Que voyez-vous donc, la mère ?» demandèrent les soldats. « Il n'est pas mort !»« Comment, il n'est pas mort ?» Pas plus que vous et moi. Et que le bon Dieu en soit béni. Tenez, regardez, il vient de faire un mouvement. L'attention des soldats, un instant distraite, se ranima tout aussitôt. Par ma foi, c'est vrai, fit l'un d'eux. Il remue. En effet, le moine, toujours étendu sur le sol, agitait très visiblement l'un de ses bras. Quand je vous le disais, s'écria la mère Fint triomphante. Il peut se vanter, par exemple, d'avoir l'âme fièrement chevillée dans le corps. Répondit l'interlocuteur de la vieille. Il a reçu plus de coups de rapière qu'il n'en faudrait pour tuer un bœuf. Et, répliqua vivement la digne cantinière, c'est peut-être un miracle ? Un vrai miracle du bon Dieu ? Pour qui donc en ferait-il, je vous le demande, s'il n'en faisait pas pour un saint religieux ? Le moine se souleva à demi, porta ses mains à son front et jeta tout autour de lui un regard plein de détresse. « D'où Jésus ? » balbutia la vieille. « D'où Jésus ? Ses yeux se sont tournés de notre côté. » Et elle se mit à crier de toute la force de ses poumons. « Par ici ! Par ici, mon bon père ! Il y a d'honnêtes gens qui vous veulent du bien !» L'endroit où se trouvait le moine était trop éloigné du rempart pour que la voix de la mère Finte pût arriver jusque-là. Sans doute, cependant, un son vague frappa les oreilles du moribond, car il rassembla toutes ses forces pour s'agenouiller, et il étendit ses bras dans la direction de la citadelle avec un geste suppliant. Mais presque aussitôt, l'épuisement s'empara de lui de nouveau, et il retomba inanimé. Il nous a fait signe, reprit la vieille femme avec une si grande animation que son visage, naturellement coloré, s'empourpra de façon à faire craindre qu'une attaque d'apoplexie ne fût imminente. Il nous appelle à son aide. Nous serions pires que des païens et des loups-garous si nous le laissions mourir là-bas. Il faut le secourir. Le secourir ? Répéta un soldat. Et comment ? Comment ? Cria la mère Finte. Ne peut-on l'apporter ici ? Et le moyen de sortir du château ? Il est plus de 5 heures, les portes sont fermées et le pont-levis est relevé. Qu'importe ! Si nous l'abandonnions, nous serions dignes d'être pendus dans ce monde et rôtis dans l'autre. Le moine avait repris connaissance. Il se traînait maintenant sur les mains et les genoux vers les fossés du château. « Vous êtes embarrassé pour des riens, » reprit la vieille femme. « Les portes sont fermées, qu'on les ouvre. Le pont est levé, qu'on le baisse. Ça n'est pas plus difficile que ça. »« Vraiment, et la permission du gouverneur de la place, l'avez-vous ? Il la donnera. »« Dans tous les cas, ce n'est pas moi qui me charge d'aller la lui demander. » « Et pourquoi donc ? Il me semble, quand il s'agit de la vie d'un saint homme, on peut se remuer. »« Iriez-vous, vous, la mère ?»« Oui, j'irai. »« Eh bien, allez-y donc. »« C'est ce que je vais faire. » Et la vieille femme se disposait en effet à descendre le talus des remparts pour gagner l'intérieur de la citadelle, quand le soldat l'arrêta en lui disant « Ne vous dérangez pas, le voici. » Les groupes s'écartèrent avec respect. Le silence s'établit. Et le gouverneur s'avança parmi les soldats. Il avait le visage farouche et le sourcil froncé. Il s'appuyait en marchant sur une haute canne à pomme d'or, car une blessure qu'il avait reçue à la cuisse gauche, au siège de Dôle, le faisait encore souffrir. « Que veut dire ceci ? » demanda-t-il d'un ton rude. « Pourquoi ces rassemblements ? Et pourquoi ce bruit ?» La cantinière, et d'après les bouches que nous avons tracées de son caractère, on doit le comprendre sans peine, s'était mise non seulement avec les soldats, mais encore avec les chefs, sur un pied de familiarité que tout le monde acceptait. « Messire, répondit-elle hardiment, il y a là, dans la plaine, un bon religieux que les maraudeurs ont assassiné et qu'ils ont abandonné, le croyant mort. Il se traîne vers les fossés. » Le gouverneur s'approcha des créneaux et regarda. Le moine était assez rapproché maintenant pour qu'on pût l'entendre murmurer d'une voix entrecoupée. « Au nom du Dieu vivant, ayez pitié de moi !»« Messire, » continua la vieille femme d'un ton suppliant, « on ne peut pas le laisser mourir sans secours, n'est-ce pas ?»« C'est très malheureux, » répondit le gouverneur, « mais je n'y puis rien. »« Vous y pouvez beaucoup, au contraire, vous y pouvez tout. Ordonnez d'abaisser le pont-levis et d'aller chercher le saint homme. »« Impossible. »« Comment impossible ?» « Pourquoi impossible ? C'est un chrétien, messire, c'est un moine. Et quand ce serait le pape, je n'y pourrais pas davantage. Son éminence, monseigneur le cardinal de Richelieu, est le seul maître partout où il se trouve. Or, il a enjoint d'une façon absolue et sans restriction de ne plus abaisser le pont-levis après 5 heures et de ne laisser entrer personne au château. Eh bien, messire, il faut prévenir son éminence. Qu'il y a tout près de nous un prêtre qui gémit et qui se meurt. Il se hâtera de donner un contre-ordre. Son éminence est enfermée dans son appartement et ne reçoit personne en ce moment. Pas même vous, messire ? Pas même moi. Le moine semblait cruellement souffrir. On l'entendait râler comme un agonisant. Il se tordait les mains et il balbutiait. Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! La vieille femme se meurtrissait le front. Le gouverneur, fort ému au fond de ce douloureux spectacle, mais n'osant enfreindre la consigne donnée par le ministre, se disposait à s'éloigner en répétant « Oui, certes, c'est triste, très triste, mais encore une fois, je n'y puis rien. » Déjà, il avait fait quelques pas. « J'ai une idée !» s'écria tout à coup la mère Finte avec l'accent de la joie et du triomphe. « J'ai une idée !» Le gouverneur s'arrêta et il attendit que la cantinière formulât son idée. Chapitre 24. Péripéties. La cantinière, augurant bien de l'attention que le gouverneur semblait disposé à lui accorder, reprit vivement. « Vous comprenez, messire, que lorsqu'on a comme moi depuis 50 ans l'avantage d'abreuver la garnison de la citadelle de Bletterans, on sait ce que c'est qu'une consigne, et on connaît le respect dû à la chose. Mais si la consigne vous défend de faire ouvrir les portes et baisser les ponts, j'imagine cependant qu'elle ne vous oblige pas à être cruelle et sans pitié. « Sans doute, » murmura le gouverneur, qui ne devinait point où la mère Finte en voulait venir. « Bref, » poursuivit-elle, « vous seriez bien aise, n'est-ce pas, messire, de sauver ce pauvre moine sans violer la consigne. Avez-vous un moyen ?»« Oui, j'en ai un, et c'est justement là mon idée. Voyons un peu. » La curiosité l'emporta sur le respect, et les soldats, qui s'étaient écartés d'abord, se massèrent de nouveau autour du gouverneur, afin d'être à portée d'entendre le projet de la cantinière. « Vous savez, messire, dit cette dernière, vous savez que j'ai un mulet, et que lorsque je vais à Lons-le-Saunier chercher des provisions, je lui mets 2 grands paniers sur le dos. Je sais cela, mais je ne devine pas quel rapport. Vous allez voir. Qui donc empêche d'attacher une corde à l'un de ces paniers, de le descendre dans le fossé avec cette corde, et de le remonter ensuite, quand le bon moine se sera installé dedans? Vous comprenez cela, messire ?
Oui.
De cette façon, la consigne est satisfaite ? La charité aussi ?
Je ne dis pas non, répliqua le gouverneur.
Ainsi, vous permettez ?
Je ne dis pas oui. Si ce religieux était un moine de quelqu'un des couvents de la montagne, de l'abbaye de Saint-Claude, par exemple, un ami du capitaine Lacuzon.
Un cuanais ? S'écria la mère Finte.
Aucune énie, messire. C'est un ami des Français, au contraire. C'est un moine de l'abbaye de Cuzeau.
Comment le savez-vous ?
Et son costume, donc, messire ? Est-ce que vous ne voyez pas son costume ? Robe grise, ceinture de corde et pieds nus. Il n'y a que les bons moines de Cuzeau qui soient habillés comme cela.
J'avoue, répondit le gouverneur avec un sourire, j'avoue que je me connais mieux en uniforme qu'en froc.
Enfin, messire, consentez-vous ?
Oui, mais à une condition.
Laquelle ?
C'est que le religieux ne sortira pas de votre logement, qu'il ne se montrera point dans la citadelle, et qu'il se remettra en route dès demain matin.
Tout ça sera fait, messire. Soyez tranquille, et rapportez-vous-en à moi.
Après avoir accordé la permission si impatiemment attendue, le gouverneur s'éloigna lentement en s'appuyant sur sa longue canne. La cantinière se mit à crier tout du haut de sa tête.
« Nicolas ! Hé, Nicolas !»
Au bout de quelques secondes, le grand Nicolas sortit du logis de sa mère. Il étirait ses longs membres et il se frottait les yeux avec ses poings fermés. À coup sûr, l'honnête garçon venait d'être réveillé trop brusquement et tout en marchant, il dormait encore.
« Va me chercher un des grands paniers du mulet !» lui dit la mère Finte. « Tu apporteras en même temps une corde d'appui et un paquet de petites cordes. Dépêche-toi ! Si tu reviens vite, je te donnerai un verre d'eau de vie. »
Surexcité par cette promesse, le grand Nicolas déploya une activité digne des plus grands éloges. Et 5 minutes ne s'étaient pas écoulées que déjà il reparaissait avec les objets demandés. Les soldats se mirent aussitôt à l'œuvre sous la direction de la vieille femme. Ils commencèrent par attacher une petite corde à chacun des angles du panier. Ces 4 cordes furent réunies et fixées à l'extrémité du câble. On laissa glisser ensuite la machine tout entière au bas du rempart. Le moine avait trouvé moyen de descendre le talus du fossé. Mais là, sans doute, ses forces épuisées venaient de le trahir. Il restait immobile, étendu sur la terre gelée, ne donnant plus signe de vie.
« Saint homme !» lui cria la mère Finte. « Mon bon père, voici que nous venons à votre aide. Le panier de mon mulet vous attend. Il est tout à fait commode et semble fait exprès. Prenez votre courage à deux mains, mon bon père, et entrez dedans. »
Le moine ne parut point entendre et ne bougea non plus qu'un caillou.
« Seigneur mon Dieu !» balbutia la cantinière. « Aurait-il déjà rendu l'âme ? Ah, mon doux Jésus, quel malheur !»
Puis, ne pouvant se résigner à perdre tout espoir, elle recommença à s'adresser aux religieux et à faire appel à son courage. Cet appel fut enfin entendu. Le moine revint à lui-même encore une fois. Il se traîna jusqu'auprès du panier, dans lequel il monta tout en poussant fort ce gémissement.
« Que Dieu soit loué !» s'écria la cantinière. « Le saint homme est maintenant hors d'affaire. Allons, vous autres, hissez-moi ça doucement et sans secousse. Je promets du genièvre à tout le monde. »
On voit que quand l'exaltation religieuse s'emparait de la digne femme, ses sages principes d'économie domestique étaient oubliés incontinent. Le contenant et le contenu, c'est-à-dire le panier et le moine, arrivèrent sains et saufs au sommet du rempart. Ce fut alors à qui s'empresserait auprès du vieillard presque miraculeusement sauvé. Mais ses plaintes et ses gémissements redoublèrent, et il supplia ses libérateurs de ne le point toucher, car, disait-il, il avait tous les membres rompus. Et de la nuque du cou à la plante des pieds, son corps n'était qu'une contusion douloureuse.
« Soyez calme, saint homme, » lui dit la mère Finte en écartant tout le monde. « On vous soignera mieux qu'un roi, et c'est moi qui m'en charge. Deux de ces braves gens vont vous prendre, et ils vous porteront dans ma chambre avec autant de précaution et de respect qu'en montre le prêtre qui tient le Saint-Sacrement sous le dais à la procession de la fête Dieu. »
C'est ce qui eut lieu en effet, et au bout de quelques secondes, le moine reposait sur le lit de la vieille femme, dans la chambre située derrière la cantine, et dont l'unique fenêtre prenait jour sur les fossés, presque au-dessus de la poterne. Ce n'est pas sans raison que le grand cardinal s'était enfermé dans son appartement. Ainsi que nous avons entendu le gouverneur du château l'affirmer à la mère Finte sur les remparts, et qu'il avait donné l'ordre de ne laisser pénétrer personne auprès de lui, sous quelque prétexte que ce fût. Il voulait rester seul. Il voulait réfléchir longuement et à tête reposée à cette scène étrange et grandiose dans laquelle il avait donné la réplique au prêtre soldat. Il voulait repasser dans son esprit et méditer à loisir chacune des réponses audacieusement franches de cet homme dont l'ardeur, la persévérance et la volonté s'étaient dressées si longtemps comme un mur d'airain devant les armées du premier ministre du roi de France. Homme étrange et sublime, que les succès n'enivraient point, que l'approche du supplice ne pouvait abattre. Peut-être, à ceux du moins de nos lecteurs qui ont longuement étudié dans l'histoire le caractère et les habitudes de l'éminence rouge, peut-être l'attitude de Richelieu pendant le cours de son entrevue avec le curé marquis paraît-elle étrange et invraisemblable. Il ne nous semble point embarrassant de prouver que cette attitude, exceptionnelle sans doute, n'en avait pas moins été ce qu'elle devait être dans une semblable circonstance. Un homme ordinaire peut et doit s'irriter de s'entendre dire face à face de cruelles vérités. Si cet homme a le pouvoir en main et qu'il n'y ait dans son âme ni générosité ni grandeur, la vengeance ne se fera pas attendre et suivra de bien près la première explosion de la colère. Mais à la hauteur où Richelieu se trouvait placé, pouvait-il être atteint par l'ironie sanglante de quelques-unes des paroles de marquis ? D'ailleurs, habitué depuis si longtemps à ne voir autour de lui que des courtisans humbles, soumis, tremblants comme des valets, et n'osant même pas exprimer leur opinion avant d'être certain que cette opinion fût conforme à la pensée du maître, Richelieu se sentait las de ses plates adulations et de ses flatteries rampantes. Il avait ressenti une sorte de satisfaction intime et profonde en rencontrant sur son chemin une intelligence indépendante, un esprit ferme et qui ne craignait point de heurter le sien. Et d'ailleurs, nous le répétons, la merveilleuse justesse des jugements du prêtre en avait fait pardonner la hardiesse imprudente. Il était 10 heures du soir au moment où le cardinal, ayant pris un parti décisif, quitta le fauteuil dans lequel il venait de s'absorber pendant de longues heures en une profonde méditation. Le ciel, sombre et chargé depuis le matin, était devenu pluvieux à la tombée de la nuit. Le vent du nord-ouest soufflait avec violence et ses rafales impétueuses chassaient les gouttes d'eau contre les hautes fenêtres
et faisait trembler les petits carreaux dans leurs alvéoles d'étain. Le curé marquis, nous le savons, avait été mis en chapelle par les ordres du cardinal. Après l'avoir conduit jusque dans le sanctuaire, les soldats s'étaient retirés pour garder extérieurement les issues, laissant ainsi le prêtre seul. La chapelle n'était éclairée que par le lumignon d'une lampe d'argent suspendue à la voûte. La lueur de cette lampe, imperceptible aussi longtemps qu'il avait fait jour, s'était agrandie peu à peu, à mesure que descendaient les ténèbres. Et lorsque la nuit fut close, un cercle tremblotant de lumière pâle et blafarde se dessina sur le marbre des dalles, mettant çà et là une douteuse étincelle sur les ornements de l'autel et sur les cadres sculptés des tableaux. Marquis avait ployé le genou d'abord en face du tabernacle. Il avait prié avec la foi du chrétien et la ferveur du prêtre. Puis, s'étant enfin relevé, il avait croisé ses bras sur sa poitrine et les regards tournés vers une image de Jésus crucifié, il s'était abandonné à ses pensées, tout à la fois tristes et consolantes, qui viennent assaillir l'âme du juste qui va mourir. Dans sa rêverie suprême, il ne s'apercevait pas que les heures s'écoulaient. Depuis la chambre à coucher du cardinal, un étroit couloir conduisait à la chapelle. Richelieu n'avertit personne. Il prit une lampe qui brûlait sur la cheminée et il s'engagea seul dans le couloir. Un soldat français faisait faction près de la porte de la chapelle. « Vous pouvez vous retirer, » dit le cardinal à ce soldat. « Votre présence est inutile ici désormais. » Le garde obéit avec promptitude et le cardinal ouvrit la porte. Marquis, complètement absorbé en lui-même, ne s'aperçut pas qu'il n'était plus seul. Richelieu s'avança jusqu'auprès de lui et lui toucha doucement l'épaule. Le prêtre se retourna. Son visage n'exprima ni trouble, ni surprise. Il s'inclina cependant, mais ce salut fut un hommage qu'il rendait à la pourpre romaine dont le cardinal était revêtu, et non point au ministre lui-même. « Prêtre, lui demanda le cardinal, à quoi donc pensez-vous ainsi ?»« Je pense, monseigneur, répondit Marquis avec calme, je pense que jusqu'à ce jour je vous ai considéré comme un ennemi cruel, que je vous ai maudit à cause du mal que vous faisiez à tout ce que j'aime, et que cependant, à cette heure suprême, toute haine a disparu de mon âme, et je vous pardonne du fond du cœur. Et d'où viennent cette résignation et cette mansuétude ? Regardez, monseigneur. » Et la main du marquis désignait le Christ. Il poursuivit. Regardez, le Fils de Dieu meurt sur une croix infâme et pardonne à ses bourreaux. Je lui ai demandé la force d'imiter le grand exemple qu'il nous a donné. Il paraît que ma prière a été entendue, car je vais mourir, et je vous le répète, il n'y a plus d'amertume en moi. Vous ne craignez donc pas la mort ? Comment la craindrais-je ? Soldat, je l'ai vu souvent de bien près. Homme, je sais que le terme de la vie est incertain, et que la mort est toujours là, guettant sa proie comme un vautour. Prêtre, j'ai combattu chez les autres les terreurs et les défaillances qu'elle amène à sa suite. Vous voyez que je ne puis craindre celle que je connais si bien. Que vos bourreaux viennent, monseigneur. Je suis prêt. Les bourreaux ne viendront pas, répliqua lentement Richelieu. Que voulez-vous dire? Les hommes tels que vous, curé marquis, réhabiliteraient les échafauds et ennobliraient le gibet. Pour eux, le supplice serait une auréole de plus. Je vous trouve assez grand. Je ne veux pas vous grandir encore. Vous vivrez. Moi, monseigneur ? S'écria le prêtre. J'espère, ajouta Richelieu en souriant, que vous ne refuserez point d'accepter la vie, et de l'accepter de moi. Le curé secoua la tête. Monseigneur, répondit-il, j'ai peur qu'il ne me faille acheter ma tête à un prix trop élevé pour être acceptable. Et qui vous parle de rachat ? Qui vous parle de conditions imposées ? Je ne vous vends pas la vie, curé marquis. Je vous la donne. Je vous entends, monseigneur, mais je vous comprends si peu que j'ai peine à vous croire. Les lèvres du cardinal eurent un sourire amer. Ah ! S'écria-t-il. Je comprends, moi. Vous ne pouvez ajouter foi à la clémence de Richelieu. Monseigneur, répondit Marquis, l'histoire dira que Richelieu fut un grand ministre, mais elle n'ajoutera pas qu'il fut un ministre clément. Eh bien, en ce qui vous concerne du moins, l'histoire aura tort. Je vous fais grâce sans condition. J'ai besoin d'un ennemi tel que vous. Moins disputé, la conquête de la Franche-Comté serait moins glorieuse. Et quoi que vous en ayez dit, je vous répète que la province que vous défendez doit bientôt appartenir à la France. Jamais, dit Marquis avec énergie. Jamais, répéta Richelieu. Le croyez-vous véritablement ? Le prêtre allait répondre. Mais soudain, il s'arrêta et saisit le bras du ministre en murmurant « Silence !» Un coup de sifflet, long et vibrant, venait de traverser l'espace. « Qu'est-ce donc ?» demanda Richelieu, étonné du mouvement du curé marquis, et surtout de la subite altération de son visage, impassible jusque-là. Mais le prêtre ne répondit pas. La tête penchée en avant, le regard fixe, la lèvre agitée par une sorte de tremblement, attentif au moindre bruit, il attendait. Un second coup de sifflet se fit entendre. « Deux !» s'écria-t-il. En même temps, sa physionomie s'illumina d'une lueur soudaine. Il avait dans les yeux l'éclair, sur la bouche le sourire du triomphe. Une réelle et profonde épouvante commençait à se mêler à la stupeur du cardinal, qui demanda d'une voix agitée. « Mais, encore une fois, qu'est-ce donc? Et que signifie tout cela ?»« Silence !» répéta Marquis. « Attendez !» Un troisième sifflement retentit, plus vibrant, plus prolongé que les deux premiers. Marquis lâcha le bras de Richelieu et éleva ses deux mains jointes vers l'image de Jésus crucifié. « Seigneur, mon Dieu » s'écria-t-il, « vous m'avez accordé plus que je ne vous demandais. Soyez béni, soyez béni !» L'effroi et l'anxiété de Richelieu augmentaient de seconde en seconde. Quoiqu'il fût brave comme un soldat, et il avait donné plus d'une preuve de cette bravoure, il pâlissait d'une façon visible et un tremblement nerveux s'emparait de lui. L'approche d'un péril mystérieux et inconnu agit invinciblement, même sur les cœurs les plus forts et sur les âmes les mieux trempées. Au troisième sifflement succéda un coup de mousquet. Puis une immense clameur s'éleva de toutes parts et enveloppa le château.